la fin de ce bulletin. Au revoir.
Afrique.
Bienvenue à l'écoute de l'émission interactive de VOA Afrique. À votre avis, Nathalie Barge, avec vous dans les studios de La Voix de l'Amérique à Washington pour donner la parole à nos invités et auditeurs sur la question de la résilience des communautés face au changement climatique, hein, ce bouleversement climatique qui est au centre de maintes concertations et rencontres internationales, alors que de vastes régions en Afrique en subissent les effets néfastes. À commencer par les communautés rurales qui vivent de l'agriculture. Réchauffement climatique, gaz à effet de serre, développement durable, protection de l'environnement sont les principaux défis du 21e siècle au plan écologique. Alors, comment vaincre les aléas climatiques? De quelle manière peut-on contribuer à la protection de notre milieu naturel et au développement local? Nous avons, pour répondre à ces questions, notamment entre autres, les invités de Ava, donc, sont deux expertes africaines. Dansila Mukakamari, elle est nutritionniste, coordonnatrice d'ARECO, l'association rwandaise des écologistes, et docteur Marie Abalo, chargée de programme d'environnement pour l'association SAD Solidarité et Action pour le Développement Durable au Togo. Alors, nous avons déjà donc Dansila Mukakamari. Comment allez-vous?
Oui, ça va bien, merci Nathalie. Et vous?
Ça va très bien, c'est un plaisir. Merci beaucoup d'être avec nous donc dans cette émission. Alors, Dansila Mukakamari, l'association rwandaise des écologistes ARECO Rwandanziza œuvre dans le domaine de la protection de l'environnement et du développement local. Alors, pourriez-vous nous dire dans quelle région vous intervenez et dans quelle mesure sont-elles touchées par les aléas climatiques et autres?
Oui, merci beaucoup de m'avoir invité sur ce plateau. Et l'association rwandaise des écologistes ARECO, Rwandanziza en sigle, intervient en principe en zone forestière et au nord du pays. Et nous intervenons principalement dans les zones des aires protégées, dans les parcs, dans les zones de parc. Nous sommes dans la zone du parc national des volcans et nous sommes aussi dans la zone du parc national qu'on appelle Dishwati-Mukura, au nord-ouest. Et nous sommes aussi dans les environs du parc national de Ngwe, au sud-ouest. Et là, nous travaillons avec les communautés et qui sont vraiment des communautés vivant en zone forestière et qui vivent, qui ont des conditions de vie très connectées à la forêt. Et avec les changements climatiques, il y a directement les effets de la déforestation, les changements climatiques où les communautés, surtout les femmes et les enfants, sont très affectés, surtout par, comme c'est en zone de montagne, il y a beaucoup d'érosion et suite à la déforestation. Et aussi, comme il y a l'érosion, il y a automatiquement la dégradation des terres qui affecte l'agriculture. Et directement, il y a la réduction de la production agricole. Et aussi, il y a une autre aspect qui affecte les femmes et les enfants qui sont les jeunes filles, où il y a vraiment des difficultés d'accès au bois de chauffe, où ils doivent faire de longues distances pour accéder au bois immersé. Et c'est dans ce cadre que nous travaillons sur ces aspects, surtout. Et nous essayons d'aider ces communautés à avoir accès aux technologies qui réduisent le bois de chauffe. Et nous aidons les communautés à avoir accès aux foyers améliorés. Et nous avons beaucoup d'activités, peut-être au fil et à mesure qu'on va entrer dans notre discussion, on va passer des activités en long et en large.
Merci beaucoup, Dansila Mukakamari. Restez avec nous. Nous avons docteur Marie Abalo, donc qui est docteur en droit international et comparé de l'environnement et qui est chercheuse donc au Togo. Comment allez-vous?
Je vais bien, Nathalie. Bonsoir, chers auditeurs.
Merci
à vous pour l'invitation.
Merci à vous. Alors, docteur Marie Abalo, sur quel type de problématique vous penchez-vous dans vos recherches, hein? Si vous pouviez nous dire d'une manière générale, quel est votre centre d'intérêt au niveau de l'environnement?
Oui, j'ai surtout travaillé sur la problématique du changement climatique. Ma thèse a porté sur la mise en œuvre du régime international du climat en Afrique de l'Ouest, notamment au Togo, au Niger et au Burkina Faso.
Alors, pourriez-vous nous dire un mot sur le droit international comparé au droit régional et national, hein, sur les questions environnementales, parce que vous avez fait beaucoup de recherches sur l'Afrique de l'Ouest normalement. Qu'est-ce qui diffère au niveau du droit? Est-ce qu'on arrive à s'y retrouver si on compare le droit international à celui qui ne l'est pas, d'une certaine manière?
Oui, lorsqu'on parle du droit international comparé, en réalité, il s'agit de voir, de faire une sorte de benchmarking, d'analyse comparative entre ce qui se passe dans les situations d'un État à un autre. Donc, lorsque vous voyez, par exemple, ma thèse, c'était une étude de cas de plusieurs États, notamment le Togo, le Niger, le Burkina Faso, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, lorsque nous prenons le cas spécifique du droit international du climat, c'est-à-dire le régime international du climat que nous avons analysé, il était surtout question de voir dans quelle mesure ce régime climatique international est mis en œuvre dans les différents États. Et vous allez remarquer que lorsqu'on fait des travaux de terrain, une analyse de fond, on se rend compte que la mise en œuvre peut varier d'un État à un autre. Donc, à partir du moment où on fait ce benchmarking-là, on peut parler de droit international et comparer de l'environnement.
D'accord. Restez avec nous, Marie Abalo. Nous allons écouter la réflexion de Alphonse Mbouaki, qui est à Kinshasa. C'est un de nos auditeurs, on l'écoute.
VOA, c'est Alphonse Mbouaki dans À votre avis. La préservation des milieux passe par la protection des corridors écologiques ou réseaux d'échanges sur les territoires afin que les espèces animales et végétales puissent communiquer, circuler, s'alimenter, se reproduire ou se reposer. Quelles sont les méthodes de protection de la nature et de l'environnement? En voici quelques-unes. Acheter des produits durables, réutilisables plutôt que des produits jetables ou des qualités inférieures. Réparer les objets brisés ou abîmés avant d'en acheter d'autres. Éviter d'acheter des produits avec beaucoup d'emballage. Acheter des produits en vrac autant que possible. Économiser l'eau, réduire sa consommation et réutiliser-la. Éteindre les lumières et les appareils électroniques lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Miser sur les énergies renouvelables, utiliser des transports publics peu polluants, vélo, marcher à pied, éviter les déboisements sauvages, développer des habitudes et des comportements et des pratiques à reboisement, à composter des déchets, à nettoyer les côtes des mers, des océans, des cours d'eau. Recycler les bouteilles plastiques et emballages en plastique, utiliser les engrais naturels pour les agriculteurs que des engrais chimiques, éviter les pesticides, manger beaucoup de légumes que de la viande, éviter de jeter des déchets non dégradables sur le sol, éviter la surpêche, la surconsommation des viandes, protéger les espèces animalières et végétales, la faune et la flore. C'était donc Alphonse Mbouaki dans À votre avis.
Voilà, donc un grand merci Alphonse pour ces bons conseils. Dansila Mukakamari, on dit que les femmes souvent font partie des communautés les plus vulnérables face au changement climatique. Pourquoi et comment ces communautés s'adaptent-elles à ces conditions?
Et surtout les femmes sont plus vulnérables face au changement climatique, puisque quand il y a réduction de la production agricole, quand il y a réduction de la nourriture à la maison, ce sont les femmes qui doivent se battre pour nourrir les enfants. Donc, c'est un problème qui affecte en priorité les femmes. Et quand il n'y a pas assez d'eau, parce qu'il y a une sécheresse, ce sont les femmes qui en souffrent puisque ils font des kilomètres pour chercher le point d'eau. Et puis aussi, ils doivent gérer correctement, surtout à la maison. Et s'il y a réduction du bois, ce sont les femmes qui sont les plus affectées, qui doivent gérer correctement cette ressource. Donc, la réduction des ressources naturelles, ça touche directement les femmes. Et c'est, ça cause beaucoup d'insécurité au niveau de femmes et au niveau des foyers. C'est la femme qui doit se battre pour... évidemment, il y a l'homme qui est là et qui essaie aussi de s'en occuper, mais c'est la femme qui doit... qui est directement concernée par... la recherche de la ressource et surtout quand il s'agit de chercher à manger pour les membres de la famille, c'est la femme. Puis au Rwanda, il y a eu des sécheresses vraiment qui ont affecté certaines zones où il y a eu des migrations à l'intérieur du pays. Vous voyez que des fois, les hommes migraient et laissaient les femmes à la maison et ces femmes devaient vraiment se débrouiller, faire tout pour nourrir les enfants, faire tout pour tenir le foyer alors que l'homme est parti. Et des fois, il revenait ou bien il ne pouvait pas. Et dans certains cas, il ne revenait pas puisque c'était dur. Et on voit des enfants, la famille est affectée par la famine. Donc, c'est l'homme, des fois, il ne revient pas. Alors, la femme doit rester et tenir avec les enfants. Donc, vous voyez que vraiment, ce sont des conditions qui touche directement les femmes et qui affecte la famille. C'est la femme qui doit gérer des conditions.
Absolument. Dansila Moukakamari, oui. Restez avec nous. Je voudrais citer, avant de revenir vers Marie Abalo, citer Abdourahmane Koulibaly, qui a laissé sur le Facebook de VOA Afrique son commentaire. Je le cite, il dit « Il nous faut l'adaptation locale et promouvoir l'éducation environnementale dans les communautés, promouvoir la protection de nos fleuves, océans et rivières, et des communautés qui y vivent, former un réseau de leadership dans la protection de l'environnement, promouvoir le développement durable et les énergies ». Renouvelable. Docteur Marie Abalo, vous êtes ambassadrice du programme ouest-africain de leadership climatique pour les femmes. Est-ce que vous pourriez nous parler brièvement de ce programme? Est-ce qu'il s'agit de métier de la protection de l'environnement?
Oui, le programme ouest-africain de leadership climatique pour les femmes a été initié par l'IRDC, le Wascal et l'Université Ufuet-Boigny. L'objectif, en fait, c'est de renforcer le développement des capacités en leadership et surtout en changement climatique de plusieurs chercheuses au niveau de l'Afrique. Mm-hmm. Plusieurs pays ont été impliqués dans ce processus, notamment le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guinée, etc. Donc, il s'agissait en fait de mettre ensemble plusieurs dames chercheuses, innovatrices et conseillères en politique qui ont essayé de faire un certain nombre d'études, chacun dans son domaine, et de produire justement des rapports qu'on pourra éventuellement publier, des articles publiables, etc. C'est beaucoup ça.
Merci bien, Marie Abalo, Dansila Moukakamari. Restez également avec nous. On va écouter la réflexion de Alpha Wambuyu. Il est en République démocratique du Congo. C'est un de nos auditeurs. On l'écoute.
Bonsoir la VOA. Bonsoir tous les auditeurs de la VOA. Il est vrai que de nos jours, les effets néfastes climatiques battent record. Mais pour arriver à lutter contre ces 10 phénomènes qui préoccupent d'abord le monde entier, nous devons d'abord être responsables et identifier tout ce qu'il y a comme cause de ces 10 phénomènes. Par rapport aux moyens qui peuvent nous aider nécessairement à lutter contre ces phénomènes, je crois que nous devons d'abord privilégier les transports moins polluants, tous les transports qui n'utilisent pas le gaz qui est beaucoup plus toxique. Nous devons aussi penser à réduire les déchets. Donc si jamais les déchets que nous produisons ne sont pas bien gérés, je crois que ça serait difficile de lutter contre ces phénomènes-là. Après cela, nous devons aussi lutter contre la pollution numérique et aussi réguler la consommation de l'électricité. Par rapport à la protection du milieu naturel, nous devons juste nous baser sur le seul principe qui est l'adaptation fondée sur l'écosystème. Et par là, je ferai juste allusion à quelques phénomènes qui semblent vraiment être à la base de tout ce qu'il y a comme changement climatique. Nous avons entre autres la sécheresse, nous avons encore les incendies causés de part et d'autre. Nous avons encore les vagues de chaleur qui sont causées, je ne sais pas, de part et d'autre par les usines, ainsi de suite. Tout comme nous avons aussi les inondations côtières, parce qu'elles aussi font partie du changement du climat. Et nous avons encore les glissements de terrain, y compris les érosions. Et enfin, nous avons aussi la désertification et les tempêtes de sable. Donc ce phénomène ici, selon moi, ont aussi impacté négativement sur la bonne marche du système. Merci une fois de plus, la VOA.
Voilà, donc c'était le commentaire de Alpha Wambuyu, qui est un de nos auditeurs en République démocratique du Congo. J'en profite pour lire le commentaire de Christian Djerabé, qui a laissé sur le Facebook de VOA Afrique donc sa réflexion. Je le cite, il dit « L'Afrique peut-elle vaincre les aléas climatiques, sachant que la protection de notre milieu naturel et le développement local fait face au manque de volonté de nos dirigeants », dit-il. Et Raphaël Omatoko, qui lui est en RDC, il dit « Pour vaincre les aléas climatiques, nous devons nous focaliser sur les énergies renouvelables afin de lutter contre le réchauffement par l'instauration de l'énergie solaire à usage domestique et industriel. » Voilà donc pour ces commentaires. Dansia Mukakamari, Areco s'implique également dans l'éducation à l'environnement et la sensibilisation du public et le plaidoyer pour la gestion durable de l'environnement. Pourriez-vous nous citer des programmes en particulier ?
Oui, par rapport à l'éducation, à l'environnement, il y a l'éducation du public où on produit des outils de communication, des formations comme les affiches, comme les films documentaires qu'on produit et qu'on diffuse. On met sur YouTube, mais aussi on les diffuse à l'occasion des événements où on les montre, on les visualise à des occasions, notamment dans les écoles ou bien dans des réunions ou des partenaires où on veut parler de questions spécifiques. Sinon, ce sont des activités au niveau des communautés, bien sûr, aussi des communautés rurales avec lesquelles on travaille, là où on diffuse ces outils de communication, et surtout écrit dans la langue locale. Et aussi, on fait la sensibilisation des messages clés qu'on adresse à la population communauté rurale pour parler des questions d'environnement en général et surtout du changement climatique qui est une thématique d'actualité et surtout qu'actuellement les populations vivent au jour des aléas climatiques où il y a eu des changements au niveau des saisons, il y a des effets visibles où les communautés doivent lier les messages aux effets qu'ils vivent au jour au jour, donc pour pouvoir aider à les faire comprendre de ces phénomènes qu'ils vivent tous les jours, puisque si actuellement il y a les saisons ont changé, les saisons agricoles, il y a eu un bouleversement où au moment où les populations étaient en train de planter, il y a le soleil maintenant. Au moment où il devait y avoir le soleil, il y a la pluie. Donc, c'est vraiment, il y a un changement où ils ont besoin de comprendre et de lier les phénomènes et les messages qu'ils reçoivent pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Et aussi, au niveau de la société civile, on essaie aussi...
Très rapidement, Dancia, très rapidement pour terminer. Je vous écoute.
Oui, je peux juste m'arrêter là.
on reviendra vers vous plus tard. Restez avec nous. Marie Abalo, vous travaillez pour l'association Solidarité et Action pour le Développement Durable au Togo. Alors, vous faites aussi des formations, sensibilisation, notamment dans les localités minières. Vous communiquez et vous travaillez donc sur le terrain. Comment ça se passe dans ce cadre-là?
Oui, il faut savoir qu'au Togo, nous avons notre loi 4 sur l'environnement qui a initié l'obligation pour les entreprises dont leur activité peut potentiellement impacter l'environnement. L'obligation donc de réaliser des études d'impact environnemental préalable et aussi périodiquement de faire des audits environnementaux. Donc, sur cette base, normalement, ces entreprises devraient pouvoir à chaque fois mettre en œuvre leur cahier de charges environnementales et sociales qui sont établis à travers les plans de gestion environnementale, les plans de gestion des risques. Donc, le rôle de l'ONG sur cette question, c'est de pouvoir en quelque sorte faire le suivi pour voir dans quelle mesure ces entreprises respectent les obligations sur la base des cas juridiques que nous avons. Et donc, au-delà de ce suivi, ça a adopté une stratégie, c'est celle de pouvoir former et sensibiliser les acteurs communautaires, notamment les communautés riveraines de ces entreprises minières. Les entreprises minières, comme vous le savez, contribuent beaucoup, beaucoup à la pollution de l'environnement. On note beaucoup de cas de pollution de l'air, de dégradation des sols par les acides miniers. Beaucoup de dégradation de la faune et de la flore, puisque pour pouvoir accéder à la mine, il faut forcément enlever tout ce qu'il y a comme fer et tout ce qu'il y a à la surface pour pouvoir accéder à la mine qui est au niveau du sous-sol. Donc, on a beaucoup de pollution et tout ça impacte forcément les communautés riveraines qui sont dans cette localité. Donc, de temps en temps, ça va sur le terrain pour pouvoir justement informer, sensibiliser communauté de leurs droits en ce qui concerne la problématique justement de protection de l'environnement, mais aussi de leurs devoirs. L'idée, c'est de pouvoir outiller ces acteurs pour qu'ils puissent savoir quelles démarches entreprendre auprès des entreprises minières qui sont sur le territoire national.
Un grand merci, Marie Abalo. Pour terminer, je voudrais citer deux auditeurs, Charles Bazema, qui a écrit sur le Facebook de VO Afrique. Au-delà des discours, il faut que l'Afrique prenne ses responsabilités vis-à-vis des grands pollueurs. En refusant leur aide, pense-t-il, leur coopération, voire même leur partenariat, pour qu'ils prennent au sérieux les revendications des pays africains. Nibi Sali dit, lors de la COP 27 prévue en novembre 2022 en Égypte, la question de l'ordre du jour sera la réduction des émissions à effet de serre parmi les séquelles causées par notre écosystème en déséquilibre, dit-il, notamment la pluie tardive ou torrentielle et des cas comme la Somalie ou l'Éthiopie menacées par la sécheresse chronique. Le stress hydrique et de la corne mènera à la dégradation de ces sols cultivables. Donc voilà pour les commentaires. Un grand merci à Dansila Moukakamari, qui est donc nutritionniste, coordonnatrice d'Areco, l'association rwandaise des écologistes. Un grand merci également à notre autre invité, Dr Marie Abalo, qui est chargée de programme d'environnement pour l'association Solidarité et Action pour le Développement Durable au Togo. Merci beaucoup à Senoumou Keita pour la production. Avec vous, c'était Nathalie Barge. Restez avec nous à l'écoute de VOA Afrique. Très bonne soirée et bon courage.